Anthony Trollope, le cousin Henry. Chapitre 12. Monsieur Owen. Isabelle passa à Hereford 4 semaines bien tristes avant le retour de Monsieur Owen. La perspective de ce retour ne diminuait en rien sa peine et ses embarras. Elle connaissait parfaitement la position de fortune de Monsieur Owen et se disait à elle-même qu'il aurait tort de se marier avec si peu de ressources. Quant à elle-même, elle ne se reconnaissait pas les qualités nécessaires à une femme qui épouse un mari pauvre. Elle se croyait capable de mourir de faim sans se plaindre si elle y était réduite. Elle se croyait capable de travailler depuis le matin jusqu'à la nuit, et cela pendant des semaines ou des mois, sans laisser voir ni fatigue ni ennui. Mais elle ne se croyait pas femme à montrer un visage toujours souriant à un mari portant des habits usés, ni à partager avec cette tendresse naturelle que ne diminue pas le souci de la pauvreté, une nourriture à peine suffisante entre des enfants nombreux. Mourir et en finir, si c'était possible, voilà le seul remède à ces maux auxquels elle pensa pour le moment. Aussi ne se sentait-elle pas consolée par cette arrivée prochaine de l'homme qu'il aimait et dont ses jeunes sœurs lui parlaient sans cesse. Elle avait refusé M. Owen quand elle occupait la haute position d'héritière de Lianfer. Refusé sans doute pour obéir à la volonté de son oncle et non pour donner satisfaction à ses propres sentiments, mais elle l'avait refusé. Dans la suite, quand elle avait cru que, d'après le testament, elle recevrait une certaine somme d'argent, elle avait pu revenir en elle-même sur son refus et considérer de nouveau quelle conduite elle tiendrait. Si cette somme était assez considérable pour qu'en épousant M. Owen, elle apportât l'aisance dans son intérieur, loin d'être une charge pour son mari, ce serait peut-être son devoir de l'épouser, puisqu'elle l'aimait de tout son cœur et avait l'assurance d'être aimée par lui. Même ainsi, il y aurait toujours eu contre le mariage cette grosse objection qu'elle l'avait refusée quand elle était une grande dame. Mais maintenant, il n'y avait pas d'hésitation possible. Pourrait-elle, si elle l'avait refusée parce qu'elle était l'héritière de son oncle, et pour cette seule raison, pouvait-elle, maintenant qu'elle était pauvre, accepter d'être une charge pour lui? Il serait sans nul doute assez généreux pour renouveler sa proposition. Elle connaissait bien la noblesse de son cœur, mais elle aussi, elle pouvait être généreuse et montrer un noble cœur. C'est ainsi qu'elle raisonnait avec elle-même, et qu'elle faisait à son inflexible fierté le sacrifice de ses plus tendres affections. Ainsi, le retour annoncé de M. Owen ne devait guère la rendre heureuse. « Il sera ici demain, lui dit sa belle-mère. Mrs. Richard l'attend par le dernier train de la nuit. Je l'ai vu hier, elle me l'a dit. » Mrs. Richard était la respectable dame chez qui logeait M. Owen. « Je n'en doute pas, dit Isabelle d'un ton ennuyé. Elle était fâchée que l'on suivît d'un œil si attentif les allées et venues de M. Owen. « Voyons, Isabelle, laissez-moi vous donner un avis. » Il n'est pas possible que vous soyez assez injuste à l'égard de M. Owen pour lui laisser croire un moment que vous refuserez l'argent de votre oncle. Pensez à sa position, environ 250 livres par an. Avec vos 200 livres, ce serait le bien-être. Sans cet argent, vous serez terriblement pauvre. Pensez-vous que je n'y ai pas réfléchi? Je suppose que si, mais vous êtes si étrange, si obstiné, si différente de toutes les jeunes filles que j'ai vues. Je ne comprendrais pas que vous eussiez le front de refuser l'argent pour aller ensuite manger son pain. » C'était là de malheureuses paroles, surtout dans la bouche de Mrs. Brodick. Elles donnèrent à Isabelle le courage de faire une réponse catégorique. Jusqu'alors, sa belle-mère avait conservé la certitude que le mariage se ferait, malgré les premiers refus de la jeune fille. Mais Isabelle était amenée à formuler maintenant un refus énergique et décisif. « J'y réfléchis, dit Isabelle. J'y ai réfléchi bien souvent, et je me suis dit à moi-même qu'il n'y aurait pas d'expression pour qualifier une conduite si vile. Quoi, vivre sur ses modiques ressources, après lui avoir refusé ma fortune, quand on croyait qu'elle serait si considérable? Certainement non, je n'aurais pas le front de le faire, ni le front, ni le courage. Il y a des actions ignobles qui ne peuvent se faire que par une audace à laquelle je ne saurais atteindre. Alors vous accepterez l'argent de votre cousin? Certainement non, dit Isabelle, ni cet argent, ni la position que monsieur Owen m'offrira peut-être de nouveau. Sans doute il vous l'offrira encore. Qu'on lui dise alors qu'aucune considération ne me fera l'accepter. C'est de la folie, vous mourrez d'amour l'un pour l'autre. Eh bien, nous mourrons, mais je ne crois pas d'ailleurs que l'on meure d'amour aujourd'hui. Si nous nous aimons, nous aurons à nous passer l'un de l'autre, comme il faut apprendre à se passer de la plupart des choses que l'on désire. Je n'ai jamais vu semblable déraison, semblable perversité. Voilà de l'argent qui est à vous, pourquoi ne pas le prendre ? Je puis vous dire, ma mère, dit-elle en prononçant avec gravité ce nom qu'elle donnait rarement à sa belle-mère, pourquoi je ne prendrai pas monsieur Owen pour mari ? Mais je ne puis vous dire pourquoi je ne puis prendre l'argent de mon cousin. Je peux seulement vous assurer que je ne le ferai pas et que je n'épouserai jamais un homme qui accepterait cet argent. Encore une fois, c'est de la perversité. Vous vous conduisez méchamment à l'égard de votre père. J'ai tout dit à papa. Il sait que je n'aurai pas cet argent. Voulez-vous dire alors que vous entrerez dans cette maison comme une charge de plus, comme un fardeau sur les épaules de votre pauvre père, quand vous pourriez au contraire le soulager ? Ne savez-vous pas combien il est gêné et qu'il a à pourvoir à l'éducation de vos frères ? Isabelle restait silencieuse, les yeux fixés sur le plancher. Et sa belle-mère continuait, sans se douter du peu d'impression que produisaient ses reproches sur une nature dont elle ne comprenait pas la fierté. Il avait toute raison de s'attendre à ce que vous ne lui coûtiez pas un sou. On lui a dit mille fois que votre oncle vous assurerait d'amples moyens d'existence. Vous savez qu'on le lui a dit. Oui, je lui ai dit moi-même, la dernière fois que je suis venu ici, avant la mort de mon oncle Indefer. Et pourtant, vous ne voulez rien faire pour le soulager. Vous voulez refuser cet argent, quoi qu'il vous appartienne, et quand vous pourriez épouser demain, monsieur Owen. Elle s'arrêta pour voir l'effet que produirait son éloquence. Je ne reconnais pas le droit de mon père, ni le vôtre, à me presser d'épouser quelque homme que ce soit. Mais vous reconnaissez, je suppose, le droit que vous avez de tenir votre parole ? L'argent est là, vous n'avez qu'à le prendre. Vous voulez dire que je dois me reconnaître tenu par ma parole. Je n'hésite pas à le faire. J'ai dit à mon père que je ne voulais pas être un fardeau pour lui. Je ne serai pas pour lui un fardeau. Il aura d'ailleurs compris que si je viole ma promesse en ce moment, c'est à cause d'une erreur de mon oncle Indefer à laquelle je ne pouvais m'attendre. Vous violez cette promesse en ce que vous ne voulez pas accepter l'argent qui vous appartient. Je viole ma promesse, cela suffit. Je sortirai de cette maison où je ne serai plus un fardeau pour personne. Si seulement je savais où aller, je partirais dès demain. « Tout cela est de la folie !» dit Mrs. Brodick en se levant en colère et sortant violemment de la chambre. « Vous avez d'un côté l'homme prêt à vous épouser, de l'autre l'argent. Il ne faut pas deux yeux pour voir quel est votre devoir. » Isabelle ne le voyait pourtant pas si clairement. Ce ne pouvait être un devoir pour elle d'accepter un présent d'argent de l'homme qu'elle supposait l'avoir dépouillé frauduleusement de la propriété. Ce ne pouvait être un devoir pour elle d'apporter la pauvreté à l'homme qu'elle aimait, et surtout après qu'elle avait refusé de lui apporter la richesse. C'était évidemment son devoir à ce qu'elle pensait de ne pas être une charge pour son père, puisqu'elle lui avait promis que cela ne serait jamais. C'était son devoir de gagner le pain qu'elle mangerait, ou de n'en pas manger du tout. Disposée comme elle l'était à ce moment, elle aurait quitté la maison sur le champ si quelqu'un avait voulu l'accepter comme fille de cuisine. Mais il n'y avait personne pour la prendre. Elle avait questionné son père à ce sujet, et il avait accueilli en se moquant l'idée qu'elle gagnât son pain. Quand elle avait parlé de service, il s'était fâché. Ce n'était pas ainsi, avait-il dit, qu'elle pouvait le soulager. Il n'éprouvait pas le besoin de voir sa fille servante ou même gouvernante. Ce n'était pas par de semblables moyens qu'elle pouvait améliorer la position des siens. Ce qu'il voulait, c'était l'amener à penser comme lui, à accepter le large revenu qui était à sa disposition, à devenir la femme d'un galant homme que chacun estimait. Mais en ce moment, il était bien indifférent à Isabelle qu'en acceptant d'être domestique, elle déconsidéra sa famille. On lui avait dit qu'elle était un fardeau, elle voulait cesser de l'être. Elle y pensa toute la nuit et résolut de consulter M. Owen lui-même. Il serait facile, pensait-elle, ou tout au moins possible, de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas songer à un mariage. Avec lui, au moins, elle pouvait discuter. Il n'avait pas autorité sur elle, et elle se connaissait assez pour avoir toute confiance dans sa force de caractère. Son père avait un certain droit à vouloir diriger sa conduite. Sa belle-mère avait aussi ce droit, par délégation en quelque sorte. Monsieur Owen n'en avait aucun. Elle lui ferait comprendre pourquoi elle ne voulait pas l'épouser, et alors il pourrait servir, par d'utiles avis, son projet d'être gouvernante, femme de chambre, maîtresse d'école, n'importe quoi enfin. Le lendemain matin, il vint et fut bientôt enfermé avec elle. Au moment où il arriva, Isabelle était assise avec Mrs. Brodick et ses sœurs, mais elles eurent bientôt fait de plier leur ouvrage et de sortir, montrant ainsi que c'était chose convenue qu'Isabelle et M. Owen fussent laissés ensemble. La porte ne fut pas plutôt fermée qu'il vint à elle, comme pour la prendre dans ses bras, et l'empêcher ainsi de se dérober en se retirant au baiser qu'il voulait lui donner comme à sa future femme. Elle comprit tout sur le champ. Il semblait que depuis la dernière entrevue dont elle eût gardé le souvenir, il y en avait eu une autre oubliée par elle, dans laquelle elle avait consenti à être sa femme. Elle ne pouvait s'irriter contre lui. Comment une jeune fille s'irriterait-elle d'un homme dont l'amour est si tendre, si constant? Il n'aurait pas songé à lui donner un baiser s'il avait eu devant lui l'héritière définitive de Lianfer. Elle le sentait bien. Elle comprenait à son attitude qu'il savait sa résolution de ne pas prendre l'argent de son cousin. Elle ignorait d'ailleurs qu'il eût eu le matin même un entretien avec son père, mais elle ne doutait pas qu'il ne connût sa résolution. Comment pouvait-elle se fâcher contre lui? Elle se déroba pourtant. « Non, pas cela, dit-elle. Cela ne doit pas être, cela ne peut pas être. Dites-moi une chose, Isabelle, avant que nous allions plus loin, et dites-la-moi franchement. M'aimez-vous? » Elle était debout à 6 pieds de lui, le regardant fixement, et déterminée à ne pas rougir devant lui. Mais elle ne sut d'abord quelle réponse il convenait de lui faire. « Je sais, ajouta-t-il, que vous êtes trop fière pour dire un mensonge. Je ne dirai pas de mensonge. M'aimez-vous ? » Il s'arrêta un instant. « M'aimez-vous comme une femme aime l'homme qu'elle veut épouser ?»« Je vous aime. » « Alors, au nom de Dieu, pourquoi ne pas échanger un baiser ? J'ai votre amour et vous avez le mien. » Votre père et votre mère voient nos sentiments avec satisfaction. Est-ce alors une faute de donner et de recevoir un baiser? Puisque j'ai gagné votre cœur, ne puis-je avoir le bonheur de penser que vous désirez me sentir près de vous? Vous le savez bien, dit-elle, quoiqu'il soit peu convenable à une femme de le dire. Qu'est-ce que je sais bien? Qu'il n'y a jamais eu un homme dont je me sois approchée avec plaisir, tandis qu'auprès de vous, je suis heureuse. Vous donner un baiser? Je baiserai vos pieds en ce moment, j'embrasserai vos genoux. Tout ce qui est vous m'est cher, les objets que vous avez touchés me sont sacrés. Le livre de prière dit que la jeune femme doit aimer son époux jusqu'à ce que la mort la sépare de lui. Je crois que mon amour vous suivra plus loin encore. Isabelle, Isabelle, retirez-vous. Je ne vous donnerai pas même ma main à presser tant que vous ne m'aurez pas promis d'être d'accord avec moi. Je ne veux pas être votre femme. Vous serez ma femme. Jamais, jamais. J'ai banni cette pensée de mon esprit, et je sais que j'ai eu raison de le faire. Les circonstances m'ont été bien contraires. Non, pas à moi. Elles ne me le sauront point si j'obtiens de vous ce que je désire. J'ai dû paraître devant vous comme l'héritière de mon oncle. Cela a-t-il eu quelque influence sur mes sentiments? Et j'ai été forcé de refuser votre proposition pour obéir à la volonté de celui qui m'avait adopté. J'ai très bien compris tout cela. Ensuite, il a fait un nouveau testament par lequel il me laissait une somme d'argent. Je le sais, et je connais, je pense, l'affaire dans tous ses détails. Mais je n'ai pas l'argent. Elle secoua alors la tête, comme si elle souriait de sa sottise à revenir sur des faits si bien connus de son amant et d'elle. L'argent m'est offert par mon cousin, mais je ne peux pas le prendre. À cela, je n'ai rien à dire. C'est le seul point sur lequel, une fois que nous serons mariés, je refuse de vous donner aucun avis. Monsieur Owen, et elle vint s'asseoir près de lui, pas assez près pourtant pour qu'elle ne pût lui échapper si cela était nécessaire. Monsieur Owen, je vais vous dire une chose que je n'ai dite à personne. Pourquoi à moi? Parce que j'ai en vous une confiance que je n'ai en aucun autre. Dites alors. Il y a un autre testament, ou plutôt il y avait un autre testament, et il l'a détruit. Pourquoi dites-vous cela? Vous ne devez pas parler ainsi, vous ne pouvez pas le savoir. Aussi vous le dis-je à vous, comme je le dirais à mon propre cœur. Le vieillard me l'a dit dans ses derniers moments. Et puis cet homme a une physionomie si répulsive. Si vous aviez pu voir combien sa lâcheté tremblait sous mes regards. Il ne faut pas juger d'après des indices de ce genre. On ne peut que les voir et les remarquer, on ne doit pas en faire la base d'un jugement. Vous auriez jugé vous-même si vous aviez vu, et vous n'auriez pu vous empêcher de juger comme moi. D'ailleurs, la seule conséquence de la conviction que je me suis faite est que, pour rien au monde, je n'accepterai son argent. Il est peut-être bon, Isabelle, que nous discutions entre nous de tout ce qui est pour vous l'objet d'un doute, l'occasion d'un embarras. Je serai heureux de penser qu'il n'y aura jamais de secret entre nous. Mais croyez-moi, ma chérie, tout cela n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous concerne tous les deux. Il est indifférent que je sois privé de toute ressource. Absolument! Non, monsieur Owen, et en cela mon père lui-même est d'accord avec moi. Elle avait tort de parler ainsi. Son père avait seulement voulu lui démontrer que le modique revenu de son futur mari lui faisait une nécessité d'accepter l'argent. Je ne veux à aucun prix être un fardeau pour vous. Et comme je ne puis me donner à vous sans vous imposer en même temps une charge, je ne veux pas être à vous. Qu'importe que nous souffrions un peu plus ou un peu moins. Cela m'importe beaucoup à moi. Un homme a bientôt fait, je pense, d'oublier cette souffrance. Une femme aussi, si elle est de celles qui surmontent aisément des difficultés de ce genre. Vous n'êtes pas de ces femmes-là, je pense. J'essayerai. Moi, je n'essaierai pas. Et en parlant ainsi, il la regardait bien en face. Ma philosophie m'enseigne à dédaigner les raisins qui pendent trop haut au-dessus de ma tête, mais à prendre le plus possible de ceux qui sont à ma portée. Je ne suis pas à votre portée. Si, excusez ma confiance, vous m'appartenez. Vous avez avoué que vous m'aimez. Je vous aime. Alors vous n'aurez pas la méchanceté de me refuser ce que j'ai le droit de vous demander. Si vous m'aimez comme une femme doit aimer l'homme qui sera son époux, vous n'avez pas le droit de me repousser. J'ai donc établi la justesse de mes prétentions, à moins qu'il n'y ait encore d'autres raisons. Il y a une autre raison. Il n'y en a pas d'autre dont je puisse être juge. Si votre père avait fait quelque objection, ce serait là une raison. Quand votre oncle a désapprouvé notre mariage à cause de la propriété, c'était une raison. Quant à l'argent, je ne vous demanderai pas de le prendre, à moins que vous ne disiez vous-même que la pauvreté vous fait peur. Il s'arrêta alors, la regardant, comme pour la mettre au défi de plaider sa propre cause avec d'aussi bons arguments. Elle ne répondit pas, mais demeura assise, toute palpitante et comme effrayée par l'énergie de ses paroles. « Elle ne me fait pas peur, à moi non plus, » continua-t-il avec douceur. « Pas le moins du monde. Pensez-y et vous sentirez que j'ai raison. Alors, la première fois que je reviendrai, peut-être ne me refuserez-vous pas un baiser. » Et il partit. Oh, combien elle l'aimait! Combien il lui serait doux de sacrifier sa fierté et son indépendance à un homme comme lui! Combien il méritait un absolu respect et une confiance sans bornes, un entier dévouement! Combien il était au-dessus de tous les hommes qu'elle avait jamais rencontrés sur le chemin de la vie! Et pourtant, elle était déterminée encore à ne pas l'épouser.